VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est midi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les magistrats ont suspendu leur grève entamée le 10 février en vue d'exiger de meilleures conditions de travail à Kiabadou.
Cette suspension de la grève est un acte de bonne foi pour permettre la poursuite des négociations, a déclaré Edmond Issofa, président du syndicat national des magistrats. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. D'un côté, réformer la justice pour lutter contre la corruption et de l'autre, laisser les magistrats vivre dans la précarité, a-t-il ajouté, indiquant que le travail reprendrait dès aujourd'hui mardi dans les tribunaux. En juillet, le Conseil supérieur de la magistrature avait transmis au gouvernement des propositions de salaire et avantages à payer à chaque magistrat congolais. La justice congolaise est souvent accusée d'être lente et corrompue, alors que le président Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. En 2018, Joseph Kabila avait révoqué 250 magistrats accusés de corruption. La RDC occupe la 168e place sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption établi par Transparency International dans son dernier rapport publié à la fin janvier.
Au Burundi, selon les autorités, au moins 13 bandits armés et un policier ont été tués dimanche dans la province de Bujumbura rurale lors d'affrontements avec les forces de l'ordre appuyées par les jeunes du parti au pouvoir. Eddy Sango.
Selon Jean-Pierre Nyongabo, administrateur de la commune de Mutambu, un groupe de bandits armés, un terme pour désigner les rebelles, est entré dans sa commune où la population et les forces de l'ordre les attendaient de pied ferme. Selon lui, les combats ont eu lieu pendant 2 heures sur la colline des Nyankere, à environ 30 km de Bujumbura, précisant que 13 bandits armés ont été tués et l'un d'eux a été arrêté. Il a aussi fait état d'opérations de ratissage pour retrouver les restes de la bande. Deux témoins ont confirmé les affrontements en expliquant que les Imburanira Kure, la ligue de jeunes du parti au pouvoir, dont certains armés des Kalachnikov, étaient en première ligne aux côtés de l'armée et de la police. L'annonce en 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat avait plongé le pays dans un cycle de violence. Monsieur Nkurunziza a surpris en annonçant en juin 2018 qu'il ne se présenterait pas en 2020, alors que la nouvelle constitution le lui permet.
Des centaines de Camerounais ont manifesté ce lundi devant l'ambassade de France à Yaoundé pour dénoncer les propos du président français Emmanuel Macron sur la manière dont le Cameroun gère le conflit dans ses régions anglophones. Monsieur Macron avait promis samedi de mettre la pression sur son homologue Paul Biya. Reportage Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, récit Lionel Gaïma.
Entre 400 et 600 jeunes, selon une estimation de la police et de la gendarmerie, se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Yaoundé. Ils ont chanté et dansé à la gloire de M. Biya tout en dénonçant l'attitude du président français. Alex Ndoumbé, un enseignant âgé de 30 ans, se dit mécontent de critiques d'Emmanuel Macron sur les droits de l'homme au Cameroun et la manière dont le président Paul Biya traite les rebelles anglophones.
Nous protestons contre ce que le président Macron a dit sur notre pays et surtout un président de son calibre. Il n'était pas censé parler comme ça dans un pays respecté comme le Cameroun, un pays qui s'est battu pour son indépendance depuis 1960. Ce que nous voulons de Macron, c'est qu'il demande pardon à notre président et à toute la nation. Nous dormirons ici parce que nous voulons qu'il demande pardon immédiatement.
La plupart de manifestants portaient des drapeaux du Cameroun. D'autres brandissaient des pancartes hostiles au président français. Ils ont nié les accusations selon lesquelles ils ont été payés par le gouvernement camerounais. Samedi à Paris, Emmanuel Macron a qualifié d'intolérable la situation des droits humains au Cameroun, promettant de mettre la pression sur M. Biya pour que cesse cette situation. Il répondait à un activiste camerounais qu'il avait interpellé au salon de l'agriculture sur 22 civils tués ce mois-ci dans une région anglophone. Des témoins ont affirmé que le 14 février, des hommes masqués en uniforme militaire ont lancé un raid sur un village, tuant des femmes et une dizaine d'enfants. L'armée camerounaise a nié avoir visé des civils, mais a parlé plutôt d'un accident malheureux. L'armée camerounaise assure qu'elle combattait des séparatistes lorsqu'une femme et 4 enfants ont été tués dans l'incendie d'une cachette rebelle. Le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué, a condamné à la fois l'activiste camerounais et M. Macron pour ce qu'il a qualifié d'exagération flagrante et des propos trompeurs sur la situation des droits de l'homme. Mais les critiques de Paul Biya ne sont pas de cet avis. Le prince Michael Nguessé Ekosso, président du Parti démocratique socialiste, un parti d'opposition.
Je soutiens le président Macron. Il y a beaucoup trop de violations des droits de l'homme, particulièrement avec la crise anglophone.
Elvis Ngolé Ngolé, expert en relations internationales à l'université de Yaoundé, estime que Biya et Macron devaient se parler pour détendre l'atmosphère.
En raison de la position géostratégique du Cameroun, je pense que la France a beaucoup à gagner en gardant ses relations avec le Cameroun.
Depuis 2017, l'armée camerounaise lutte contre des rebelles séparatistes qui veulent créer un État anglophone indépendant appelé Ambazonie. M. Macron a déclaré qu'il prévoit d'appeler M. Biya cette semaine et de faire pression sur lui pour résoudre ce conflit qui a fait près de 3000 morts et des dizaines de milliers de déplacés.
L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui a accompagné le processus électoral en Guinée, a sévèrement remis en cause lundi la régularité du référendum et d'élections organisées dimanche par le pouvoir en jugeant problématique plus de 2 millions de noms d'électeurs figurant sur les listes. L'OIF a du coup indiqué qu'il lui était difficile de continuer sa mission 6 jours seulement avant ses consultations à haut risque. Au Togo, l'opposition a continué de contester hier la victoire du président Faure Gnassingbé, élu pour un 4e mandat dès le premier tour de l'élection de samedi. Hier, l'opposant Agbayomé Kodjo a appelé le peuple togolais à réclamer la vérité des urnes. Les précisions de notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Amanoumbou.
Agbayomé Kodjo n'en démord pas malgré la publication de la Commission électorale nationale indépendante du vainqueur du scrutin du 22 février. Après s'être autoproclamé dimanche élu du Togo, hier encore, il a déclaré être le gagnant de la présidentielle de samedi dernier.
En conséquence, les acteurs de la dynamique, Monseigneur Kodjo, rejettent catégoriquement les chiffres communiqués par la CENI et interpellent les missions d'observation électorale et la communauté internationale afin qu'elles prennent des dispositions idoines.
L'ancien Premier ministre, s'exprimant au nom du collectif des acteurs de la dynamique, Monseigneur Kodjo, a appelé le peuple togolais à réclamer la vérité des urnes.
Il lance un appel vibrant aux populations togolaises à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à cette mascarade électorale et à défendre leur suffrage.
Mais pour l'heure, son appel à manifester n'a pas été suivi. Dans un communiqué, l'ANC de Jean-Pierre Fabre a dénoncé au même titre que le collectif de la dynamique à Monseigneur Kodjo une fraude massive lors du scrutin de samedi. Irénée Hermanoumbo, Lomé, VOA Afrique.
Deux soldats turcs ont été tués en Libye où Ankara a déployé des militaires pour soutenir le gouvernement de Tripoli, a déclaré aujourd'hui le président turc Recep Tayyip Erdogan, faisant pour la première fois état de perte dans ce pays. La Turquie a déployé ces dernières semaines des militaires pour soutenir le gouvernement d'Union nationale, le GNA de Fayez al-Sarraj, face à une offensive de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a retrouvé aujourd'hui à New Delhi Narendra Modi au lendemain d'un accueil en grande pompe et d'une visite au Taj Mahal au soleil couchant. Le président américain et la première dame Melania Trump ont débuté leur deuxième et dernière journée par un hommage au Mahatma Gandhi, au Raj Ghat, où le père de la nation indienne a été incinéré après son assassinat par un extrémiste hindou en 1948. Le locataire de la Maison Blanche doit s'exprimer aujourd'hui lors d'une conférence de presse en fin d'après-midi. Au-delà des tractations commerciales avec Delhi, le possible accord de paix en Afghanistan avec les talibans et la campagne américaine en vue de la présidentielle du 3 novembre devrait figurer en bonne place. De hauts représentants démocrates ont demandé lundi à l'administration Trump de prendre immédiatement des sanctions contre la Russie après que les services du renseignement américain ont informé le Congrès que la Russie semblait chercher à influencer l'élection présidentielle de novembre prochain. Le Kremlin a nié vendredi toute ingérence dans la campagne présidentielle américaine. Et puis le calme est revenu ce matin dans la bande de Gaza après 2 jours d'affrontements entre Israël et le groupe palestinien armé Djihad islamique, malgré les craintes initiales d'une escalade militaire à l'approche des élections israéliennes. Dans la matinée, l'armée israélienne n'a fait état d'aucun tir de roquette depuis l'enclave palestinienne sous blocus, d'où environ 80 projectiles ont été tirés depuis dimanche. Fin de ce journal, Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain, c'est dans 50 minutes et vous retrouverez Henri Francisque toujours à son poste.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.